corps.
Tiens. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle intégrale. Après les 84 années passées à décortiquer la carrière de Nicolas Cage, nous sommes la Dream Team quasiment au grand complet. Clem nous a fait faux bond pour le premier épisode par maladie. On pense à toi Clem, on te dédie cet épisode. Et en tout cas, le reste de la team, la Dream Team est là. Amandine, comment ça va ?
Ça va bien, même si la préparation de ce premier épisode m'a rappelé les heures sombres du début de Maggie. Donc je commence à m'inquiéter.
De Maggie Cheung, pas la série Maggie avec Rosie Vart, bien sûr.
Évidemment.
Bien sûr. Anouk, point d'interrogation.
Je passe une journée bizarre, mais ouais. J'ai pas eu de problème avec Cheryl.
Très bien. Mathieu.
Moi, je suis content d'être de retour. Ça faisait longtemps que je n'avais pas participé à un podcast.
Ouh,
je suis.
Bravo.
Voilà, je suis sorti de ma retraite.
De ta grotte.
C'est ça.
On peut lui mettre un petit jingle genre He's back.
Nous allons vous parler d'une légende vivante, d'un demi-dieu du cinéma contemporain, du cinéma des 40 dernières années. Shah Rukh Khan, on va s'accorder déjà sur la prononciation. Il faudrait, et c'est ce qu'un des films va nous apprendre, d'ailleurs, pas tout de suite, hein, parce que là on est encore parti pour une épopée de plusieurs années, je pense, au bas mot. Il y a un film qui va nous apprendre qu'il faut vraiment le prononcer Khan. On va prononcer Shah Rukh Khan, est-ce que tout le monde est d'accord ?
Oui,
oui.
Très bien, on commence par un consensus, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, c'est un acteur, une intégrale qui nous a été demandée, réclamée à plusieurs reprises. Il y a eu des réticences, parce que beaucoup de films ont déjà été traités, que ce soit à travers l'intégrale Kajol, l'intégrale Sanjay Dabansali, d'autres films qui ont été cités à d'autres occasions, mais c'est vrai que Shah Rukh, quoi. Qui veut parler de son rapport, de sa relation au quotidien avec Shah Rukh ? Pour qui Shah Rukh Khan, je me loupe déjà dans la prononciation, Shah Rukh Khan est un empire romain.
Bon bah j'attaque, c'est moi.
Oui,
mais...
Évidemment.
Empire, mais quelle découverte. Et si je suis tout à fait honnête, la première fois que je l'ai vu, donc c'était dans Devdas, la première, j'ai un souvenir très très net de la première apparition, où c'est aussi les scènes comme ça, très, très maîtrisées de l'apparition du héros. Et j'avoue, honteusement maintenant, qu'à l'instant T, je me suis dit, mais c'est quoi ça ? Enfin, c'est qui ce type ? C'est ça le héros ? Enfin voilà, une grosse remise en question de mes codes, de ce que devait être un héros. Et je pense que c'est grâce à cet acteur que j'ai vraiment, vraiment saisi plein de choses, en fait, sur la puissance du jeu d'acteur, de l'incarnation. Et c'est vrai que je pense qu'il ne se passe pas une année depuis sans qu'on voit des films avec lui. Et je suis très contente de faire cette intégrale parce que je pense que ça va me permettre d'approfondir ce que je sens peut-être intuitivement. Mais c'est qu'en fait, il a une palette avec qui je vois peu d'équivalent en fait, dans le cinéma contemporain. Bon, par ailleurs, maintenant, je suis complètement fan. C'est foutu, quoi.
Mathieu.
Moi, c'est un peu différent d'Amandine, évidemment, parce que je suis pas... D'ailleurs, je considère que pour ce podcast, je vais être un peu le ravi de la crèche. C'est-à-dire que j'ai des compétences en termes de cinéma indien, mais j'en ai pas autant que vous tous. Donc du coup, je serai toujours un peu ébahi, sans doute, par ce que je vais voir. Ou pas, d'ailleurs, on le verra dans cet épisode. Mais moi, c'est à peu près au même moment qu'Amandine. J'ai eu une espèce de découverte. J'étais pas bien du tout dans ma vie. Quand j'ai découvert Shah Rukh Khan, et en fait tout a changé, c'est très bizarre ce que je suis en train de dire, mais, j'étais un peu perdu, paumé un été, on était plus vieux en plus, j'étais à Dieppe, et j'ai vu Vir Zara, quoi. Voilà. Et donc j'ai une espèce de bouffée de vie, une bouffée d'amour, j'étais là, oh, c'est formidable. Voilà. Depuis, je voue un amour sans faille à Shah Rukh Khan, même si je ne suis pas non plus un zélote, donc je ne vais pas avoir tous ses films à chaque fois qu'ils sortent. C'est pour dire que c'est un ami proche, mais que je ne vois pas souvent. Voilà, des heures comme ça.
Et ben, on va voir où ça va nous mener, ça va être très intéressant en tout cas. Merci beaucoup, Anouk.
Et ben, moi, c'est mon point d'entrée dans Bollywood, hein, tout simplement, avec Devdas et Kutch Kutch Ottae. Donc, au début, je ne connaissais que lui, je l'ai aimé, évidemment. Et après, sont venues les questions, en découvrant d'autres acteurs de cette génération, et puis des suivantes. Est-ce que Shah Rukh, c'est mon préféré? Je change d'avis régulièrement. Je pense que je change d'avis à chaque fois que je vois un film de Shah Rukh, parce que je me dis évidemment que c'est mon préféré, mais je pense que c'est vraiment un acteur qui a le charisme pour plaire à tout le monde. Et c'est pour ça que des fois, je me dis, ah bah moi, je préfère Amir Khan, parce qu'il est un petit peu plus un télo. Il a un autre, d'autres qualités qui me semblent plus personnelles à moi. Et en même temps, on peut pas enlever que à Shah Rukh, il a ce truc quasiment universel, quoi. Enfin, à la fois on en parlera, hein, mais qui change effectivement, comme l'a dit Amandine, du héros traditionnel, et pourtant qui transcende. Enfin, je veux dire, qui n'aime pas Shah Rukh Khan, quoi. Alors, Salman, c'est autre chose, mais Shah Rukh Khan, il y a un côté universel. Donc voilà, j'ai peut-être pris un petit peu plus de recul. On en avait parlé avec Devdas quand on a, enfin voilà, sur les personnages qu'il a pu jouer, sur lesquels j'ai plus de recul qu'au moment où je l'ai vu. Mais l'acteur lui-même, rien à dire, hein, ça marche.
Je vais avoir beaucoup de mal à être de bonne foi, à être tout à fait honnête pendant toute la durée de cette intégrale, je vous l'annonce, hein, je pense que ça s'est déjà ressenti quand j'en parlais, mais Shah Rukh, c'est l'alpha, c'est l'oméga, c'est tout. Devdas, j'ai jamais été aussi happé par une performance d'un comédien. À partir du moment où il attrape la mouche, je crois que j'en parlais dans l'épisode 100, j'ai dit la bande série. Et toute la fin qui est hyper outrée, où il y a vraiment ces yeux mouillés de Shah Rukh Khan.
Ah bah les yeux mouillés et les sourcils. Hein.
Ah mais...
Ça, on va en parler. Hein. On va disséquer chaque poil de sourcil.
Le pouvoir émotionnel de cet homme, quoi. Et après, je suis tombé sur un VCD pirate de mauvaise qualité de Dilsé, mais où lui était net, là où tout était flou dans l'image. Enfin, je vais vraiment manquer de bonne foi, je pense. Je suis fasciné par cet homme, par tout ce qu'il représente, et même quand j'aime pas les films, c'est très rare que lui, je le trouve mauvais, en fait. Sous la contrainte, je pense, je le trouve mauvais. Même dans d'assez mauvais films, on va dire. Voilà, mais peut-être qu'à la revoyure, justement, toutes mes réserves sont estompées. Je ne sais pas, on verra. Je vais commencer par faire une biographie. Alors, je ne sais pas si Mathieu posait la question en antenne, ce sera aussi long que celle de John Milius, je ne sais pas. C'est inspiré, là aussi, d'un livre, donc je vais citer la source. Si vous lisez l'anglais, c'est un excellent bouquin, c'est King of Bollywood, Shah Rukh Khan and the Seductive World of Indian Cinema, de Anupama Chopra. C'est la source qui est réutilisée un petit peu partout, hein, quand vous cherchez des informations en ligne sur Shah Rukh Khan, sur ses jeunes années, en fait, avant qui démarre sa carrière de comédien. C'est, je sais pas, 9 fois sur 10 le bouquin qui est cité, donc je dis, bon, moi je vais le toper. Et c'est assez bien écrit, c'est une très 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 bonne contextualisation, tant sociale que politique, que du divertissement, l'appréhension de Bollywood, les différentes cinématographies indiennes, les différentes cultures, les principaux événements qui vont traverser le parcours de Shah Rukh Khan et les événements politiques en parallèle. Donc vraiment, lisez-le, King of Bollywood, de Anupama Chopra. Donc je vais vous faire un digest des années qui l'amènent au premier titre qu'on va traiter. On va traiter la carrière télévisuelle très rapidement. On n'a pas pu tout voir, tout retrouver, on a vu tout simplement les œuvres où il y avait des sous-titres. Déjà, moi j'ai regardé 2-3 épisodes où on le voit apparaître dans d'autres séries sans sous-titres, on comprend vaguement ce qui se passe, mais bon, on loupe quand même pas mal de choses. Alors, il y a une fascination évidente pour, dans un premier temps, la figure du père de Shah Rukh Khan et pour Shah Rukh Khan lui-même. Quand il y a des éléments qui sont repris de ce bouquin, Shah Rukh Khan est déjà un mythe, déjà une légende enfant, dès qu'il naît, en fait. Il y a cette façon de se réapproprier des éléments biographiques et d'en faire vraiment une légende, quoi. C'est-à-dire que dès sa naissance, il y a un problème avec le cordon ombilical, il manque d'être étouffé, et il y a une infirmière qui voit, en fait, dans le fait qu'il survive à cette épreuve, un geste du dieu Hanuman, et elle prédit à Shah Rukh Khan une vie de chance. Voilà. Shah Rukh Khan, au-delà de ses considérations, naît le 2 novembre 1965 dans une famille musulmane de New Delhi qui définit lui-même comme multiculturel. Il se dit Shah Rukh Khan, il dérabilite par sa mère, donc de la région du Telangana où ça parle ourdou. Il a aussi des liens pashtoun c'est patan, ça se dit patan en hindi, par son père, et un peu kashmiri par sa grand-mère. Il a une grande sœur de 5 ans, son aîné, Shehnaz Lalaru Khan. Son père, Mir Taj Mohammed Khan, était un indépendantiste indien affilié au Congrès national indien, le parti de Gandhi, ainsi qu'au Khudai Khidmatgar, un mouvement de résistance non violente pashtoun au Raj britannique. Il a été arrêté, il a fait des événements, il a beaucoup parlé en public où il a exercé sa faconde. C'était quelqu'un de très charismatique, le père de Shah Rukh Khan. Il a vaguement essayer d'ailleurs de faire l'acteur. Alors le livre de Anupama Chopra raconte une scène où il se rend sur le tournage de Mughal et Azam, tout se recoupe, je sens que Amandine est en train de bouillir, tout à fait. C'est quelqu'un qui par ailleurs a de nombreux contacts politiques, mais qui ne s'en est jamais servi, en fait, au grand désespoir de son épouse pour se sortir de la panade. C'est quelqu'un qui s'est essayé à beaucoup de choses dans le monde des affaires et qui à chaque fois, quasi systématiquement, se faisait arnaquer parce que trop honnête, trop gentil. La mère de Shah Rukh Khan, Fatima Latif, protégeait ses enfants du mieux possible, en fait, de ces déconvenus-là. Elle vient d'une famille plus riche, mais pareil, ils n'ont jamais demandé d'aide substantielle à la famille, on va dire. Ils déménageaient souvent, un petit peu comme ils vivaient un petit peu comme ils pouvaient, mais ça va, ils étaient quand même dans la classe moyenne. Et ils passaient des étés dans la grande maison des parents de la mère de Shah Rukh Khan, Fatima Latif. Et c'est elle qui inculque la religion à ses enfants. Alors c'est à la fois pratiquant et à la fois un peu informel, enfin elle leur demande quand même de faire les 5 prières par jour, mais le père, typiquement, beaucoup plus relâché, hein. Il jeûne pas toujours au ramadan, c'est comme ça qu'il l'explique dans le bouquin. Et Shah Rukh Khan a une enfance où il grandit assez épanoui, avec des amis, il écrit de la poésie, il joue au cricket, il est passionné de Bollywood, évidemment, de Amitabh Bachchan dans sa période 70s, ou de l'actrice Mumtaz, qui a pris sa retraite à la fin des années 70, mais il imite les deux, aussi bien les acteurs que les actrices. Il suit des cours de théâtre, il se prédestine à une carrière sportive, mais une blessure à l'épaule l'en empêche. Il continue, du coup, à faire du théâtre, au point de délaisser ses études et vraiment de se consacrer à la pratique théâtrale, même s'il va quand même assez loin. Il fait des études d'économie, il commence un master en communication, il rencontre sa femme, Gauri, en 1984 à Delhi, l'épouse en 91, et les enfants de Shah Rukh Khan et de son épouse Gauri sont imprégnés de leurs deux cultures, musulmane et hindoue. Il y a deux événements qui vont se recouper. Il y a son père, Shah Rukh Khan, qui meurt du cancer en 1981, alors qu'il a 15 ans. Ils auront tout de même eu le temps de faire deux voyages au Pakistan qui vont marquer, qui vont rester dans la mémoire de Shah Rukh Khan, et sa mère meurt en 91 de complications de son diabète. Shah Rukh Khan s'occupe de sa sœur était déjà très ébranlée par la mort de leur père 10 ans plus tôt, elle est complètement terrassée par celle de sa mère. C'est le déclic pour Shah Rukh Khan, il déménage à Mumbai, il va essayer d'avoir décrocher des rôles dans l'industrie cinématographique où il se laissera un an pour réussir, mais avant ça, il démarre donc à la télévision et c'est par ça qu'on va démarrer. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça a pris,
ça va. Pas trop long. Et ça bosse, hein, Liberapé, il faut donner des sous pour qu'il achète les livres, parce que ça bosse, là. On voit les sous, pas à l'écran, du coup, mais au podcast. Voilà.
Donc, son premier gig à la télévision, c'est pour la série Dil Daria, qui est repoussée. Donc, sa première apparition officielle, c'est dans une série qui s'appelle Fauji, qui est diffusée en 1989. On a vu le premier épisode, sous-titré en français, voilà, ça se trouve. On suit l'entraînement et le quotidien de jeunes recrues des commandos de l'armée indienne. C'est simili-propagandiste, faut pas se mentir, mais c'est pas Top Gun de Tony Scott non plus, hein. On est sur une facture qui est très 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 télévisuelle. Enfin, vraiment les séries indiennes de cette époque-là, avec une mise en scène qui est quand même assez appuyée, avec des zooms, des dézooms. Dès que ça quitte le plan fixe, ça tremblote. Enfin bon, voilà. Ça m'a rappelé les terribles heures où je me suis bingé l'intégrale de l'adaptation de Stephen King là. En indie avec Ashutosh Gowariker. Donc Shah Rukh Khan joue une recrue qui s'appelle Abby, qui est un peu sympa, fumeur, déconneur, qui siffle les filles dans les bars, et qui a un twist final. Mathieu, tu voulais démarrer sur Fauji.
J'ai pas dit que je voulais démarrer, hein. Ça m'a été assigné. Je préfère qu'on rétablisse la vérité.
T'es porté volontaire, Mathieu.
Voilà, exactement. J'ai été enrôlé pour m'occuper de Fauji. Je t'ai entendu dire que t'as vu le premier épisode. Est-ce que je me suis fait pigeonner en regardant les 13 épisodes ou comment ça se passe? Parce que moi j'ai tout regardé. Hein. Il y a tous les épisodes en fait. Ben ouais, il y a tous les épisodes qui sont sur Dailymotion. Ben non, sur Dailymotion, très important, ils sont pas
incroyable.
Sur
YouTube. Incroyable zèle de ouais. Mathieu.
Oui, ben je me suis dit quand même, oui. si c'est à moi d'en parler, il faut quand même que je regarde tout quoi. Voilà. Donc,
d'accord.
Ça a été une sacrée cure.
On est... ouais. Merci. Mais bravo. Toutes
nos condoléances.
Mais je suis désolé parce qu'en plus Clément il a fait la même chose, donc c'est dommage qu'il soit vraiment pas là quoi, parce qu'il aurait pu, on aurait pu partager notre souffrance.
C'est peut-être pour ça qu'il est malade aujourd'hui.
Hein. Oui, voilà, c'est ça, il a fait une chute.
Donc effectivement, ça se trouve sur Dailymotion, mais ne faites pas ça chez vous, faites le premier épisode et puis vous comprendrez pourquoi faut pas faire les 12 suivants.
Ouais, oui. Ou alors, ouais, ou regardez-le en faisant autre chose.
T'as fait quoi toi, Mathieu?
Moi j'ai vraiment regardé. J'ai regardé en prenant des notes et en prenant des notes et en mettant en place, en mettant en forme, pardon, mes notes pour les autres films. Voilà, j'ai fait ça.
D'accord.
Que voulez-vous, je suis un homme dédié. Fauji, ah là là, quelle histoire. Donc, d'abord, je tiens à dire que j'ai jamais fait l'armée, hein, mais je crois pas que ce soit un grief pour s'attaquer à une série que je pourrais décrire de clairement pas étouffée par le réalisme, parce que bon.
Écoute, moi, j'ai fait la journée d'appel à la défense, j'allais pas m'en servir comme argument. Hein.
Exactement. Tu parlais de Top Gun, tu disais que c'était pas comme Top Gun, en effet, c'est pas du tout comme Top Gun. Moi, je pense que on est entre on s'en rend compte dès le générique, en fait, on est entre le spot de recrutement de l'armée de terre, Full Metal Jacket et Extrême Limite, la série de TF1 de AB Productions. Voilà. On a très rapidement, on s'en rend compte très très vite, en fait, comme tu disais, c'est une facture télévisuelle. Mais alors après, c'est une facture télévisuelle de l'époque en Inde. Oui, j'élargirais même plus ça, c'est une facture télévisuelle de l'époque dans le monde entier. Qu'en fait, c'est une série de base télévisuelle, voilà, un truc pour. J'ai l'impression que c'est un soap, en fait, même presque, pour remplir des cases. C'est diffusé sur la télé nationale, donc j'imagine qu'il doit y avoir aussi des restrictions, des règles pour ne pas rendre le truc trop, trop aventureux, quoi. Mais je trouve qu'on est face à une série qui est en pleine neurasthénie. C'est-à-dire qu'on a une série sur l'armée. Dans le premier épisode, c'est quand même une série sur l'armée, la formation d'un commando. Tu t'attends avec un peu plus d'entrain, une mise en scène un peu plus péchue. Le discours du général dans le premier épisode, il a un espèce de débit de moine. Et moi, je veux pas partir à la guerre avec lui, clairement. Enfin, je veux dire, tu perds direct, quoi.
Oui, c'est pour ça que tu disais Full Metal Jacket, oui et non.
Non, mais je veux dire, Full Metal Jacket, dans le côté, les deux tiers de la série, on fait une formation. Et le troisième acte, en fait, on les envoie à la guerre. Il y a un peu ça, en fait. Vous qui n'avez pas vu le reste, je peux vous en parler, justement. Donc, sachez que, voilà, mais ça fait partie de mes explications ensuite. Voilà, mais on va dire que cette espèce de rythme-là, où sur un épisode de 20 minutes, on a 5 minutes qui servent à avoir un générique qui est beaucoup trop long, à avoir des résumés de l'épisode précédent. J'ai l'impression enfin, ça me rappelait les heures les plus sombres du Club Dorothée avec les épisodes de Dragon Ball Z et du Chevalier du Zodiac, hein, où en fait il se passait rien dans ton épisode,
oui,
parce que tu avais 10 minutes sur 30, en fait, tu vois. Tu avais juste 10 minutes où c'était des mecs qui se regardaient en chien de faïence et qui disaient des dialogues qui n'avaient aucun sens, quoi. Voilà. Donc on suit cette fameuse escouade de commando qui fait tout sauf être une troupe militaire, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils font la teuf, ils vont à des mariages, ils se racontent des histoires dans leur petite chambre, ils bullent, ils font des blagues, ils fument des clopes, ils font des matchs de squash pour se disputer une nana. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que donc Shah Rukh joue donc Abby, mais il se trouve que un de ses sergents instructeurs, c'est son frère.
C'est son grand frère, voilà. C'est le cliffhanger du premier épisode, oui.
Exactement.
Et j'ai vu ça, j'ai fait waouh, j'en ai rien à foutre, je veux pas voir la suite.
Exactement, mais c'est un peu le sentiment général des 13 épisodes, c'est tu te dis pourquoi je suis là, j'en ai rien à foutre, je sais pas pourquoi vous m'avez embarqué dans.
À part ça, t'es content de refaire une intégrale.
non, je vous en veux pas à vous, mais genre moi j'en veux plus à Raj Kumar Kapoor, le créateur de la série. Je dis pourquoi tu fais ça, mec, c'est pas nécessaire, quoi. Donc on a quand même un des pinacles, un des climax de la série, c'est donc quand Shah Rukh Khan et son frère, qui est joué par comment il s'appelle déjà, excusez-moi, par Rakesh Sharma, pardon, qui donc se dispute une nana faisant un match de squash qui est présenté dans un montage alterné avec un combat entre chevaliers de l'époque médiévale indienne, je pense, avec des goûts en matière de costumes et de direction artistique très, très discutables. Voilà, donc c'est l'épisode 7, si je me rappelle bien. Voilà, je ne me rappelle plus, mais... et donc, ces soldats, ils font pas grand-chose de militaire, ce qui est pas plus mal, parce qu'en vrai, les exercices qu'on leur fait faire, ils ont l'air vraiment très très nuls, et ils manquent, encore une fois, cruellement de rythme, donc tu te dis qu'en fait, ces gens-là, ils vont partir à la guerre, ils vont tous mourir. Spoiler, c'est ce qui se passe.
À part... Même Shah Rukh.
À part Shahrukh, voilà. Qui... Non, à part Shahrukh et son pote Varun, qui est donc le fameux, plutôt l'infameux Varun qui dit tout le temps « I said chaps » à longueur de journée. Voilà, qui rend Barjo parce qu'il le sort au moins 10 fois par épisode. Voilà, c'est un peu le, c'est un peu le Freeze Corleone de la série qui lâche tout le temps des « équipe, équipe, équipe ». Et là, c'est pareil, lui, il fait des « I said chaps ».
C'est devenu un peu ta catchphrase d'ailleurs, Mathieu.
Oui, complètement. Dès que je commence une phrase, maintenant je dis I said chaps, toujours. C'est, voilà, c'est terminé.
Pour moi, Fonzie.
Je m'en veux beaucoup. Mais voilà, donc on a ce truc-là, on a des dialogues complètement abscons du type la queue d'un chien ne peut jamais être droite. Que veux-tu dire ? Tu vois très bien ce que je veux dire. Eh bien non, désolé, je ne vois pas. Donc je ne sais pas quoi en faire. Des choses comme ça. On a le frère de Shahrukh qui discute avec son supérieur, qui je pense est le créateur de la série, j'en sais rien, parce que je lis pas le sanskrit, donc je sais pas, mais ça a l'air d'être le mec qui s'est donné le bon rôle. Il lui dit, on va faire la guerre, ça devrait être amusant, et le supérieur lui tient un discours presque pacifiste, et là tu dis, ouais, c'est un peu intéressant, mais il lui dit, ne soyez pas heureux, nous les militaires devrions haïr la guerre, et nous le faisons. Et là tu dis, ça y est, ça commence, il y a un truc qui se bascule et tout, les gens qui commencent à discuter un peu des objecteurs de conscience, machin. Et 2 secondes plus tard, en fait, le même supérieur, il termine son laïus par un rire de connivence et il dit « Mais t'inquiète pas, je vois très bien ce que tu veux dire. » Et ils partent. Bon. Ok, donc le truc est complètement annihilé, voilà. En plus de ça, donc, on a un build-up qui dure 9 épisodes sur 13. C'est beaucoup trop long, en vrai. Épisode 10-11, ils sont envoyés, ils sont dispatchés, ils vont sur un conflit qui n'est pas... expliquer, on ne sait pas trop quel conflit on parle.
Tu sais très bien.
Oui, voilà, bah oui, tu sais très bien ce que je veux dire. Tu sais très bien qu'il y a l'ennemi. Et donc, on se dit, enfin, il se passe quelque chose, quoi. Ils partent à la guerre, sauf que bah, le build-up, il est tellement mal fichu sur 9 épisodes qu'en fait, tu n'en as strictement rien à faire des personnages, rien à faire de leurs choix, rien à faire de leurs attachements, de leur destinée. Donc, on voit juste des pions qui se déplacent sur un territoire ennemi, qui, à des moments, ils sortent leur sulfateuse et puis, ils se tirent dessus. Il y en a qui meurent, il y en a qui ne meurent pas. Il y en a qui se sacrifient, mais tu dis, ah ouais, rien à foutre. Enfin, c'est vraiment, tu vois des mecs passer, quoi. Tu dis, ah ouais, ok, ok, très bien. J'ai regardé ensuite l'overview de Google, la critique, on va dire, en anglais de Google, qui est toujours un peu succincte, qui annonçait une série amusante, charmante et nerveuse. Bah, je sais toujours, quoi, je sais pas où on en est.
Ni l'un, ni l'autre.
Voilà. Ceci étant, attention, on a quand même des bonnes choses. Il n'y a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Je noterai donc. Voilà, exactement. Premier rôle de Shahrukh. Alors, j'ai marqué le premier rôle de Shahrukh, il est tout kiki. Je sais pas ce que ça veut dire, parce que j'ai vu le truc il y a 3 semaines, je sais plus. Donc, mais voilà, je sais pas ce que ça veut dire, mais je me dis que ça va. Pourquoi pas? Il est tout kiki. Ça peut marcher. Et surtout, il pleure déjà très bien, quand même.
Ouais.
Voilà.
Exactement.
Enfin, comment dire? Je trouve que on verra ça plus dans l'idiot. Vraiment, on verra l'entière panoplie du Shahrukh, la colombe majestueuse va déployer ses ailes. Là, on est, c'est encore un peu larvé, mais il y a des trucs qui ressortent. Et clairement, d'ailleurs, il surnage avec tous les autres acteurs qui sont complètement, ils ont des charismes de moule, quoi. Et lui, tu sens qu'il est là, quoi. Il est vraiment présent. Il arrive à incarner un minimum, alors que bon, c'est pas gagné quand même. Il part de très loin. D'ailleurs, le créateur de la série, le réalisateur de la série. Kapoor, il a dit justement qu'il devait au départ donner juste un tout petit rôle à Shahrukh, un rôle où il devait compter les corbeaux dans un arbre, je cite. Et au final, il a dit que la caméra l'aimait tellement qu'il a fini par lui donner le rôle principal, en fait. Voilà. Donc merci la caméra. Voilà, tu as vu le génie de Shahrukh Khan avant tout le monde. J'ai noté également, sur les bons points, une technique infaillible pour se débarrasser des relous, les prendre en photo avec le flash et ensuite les défoncer avec un discours antimilitaire, ça c'est bien. Si vous êtes une femme, en tout cas, et que vous voulez vous débarrasser de Bidas, voilà. Ouais. On a également un instructeur qui a l'air très, 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 très méchant, avec une très, très belle moustache aussi, dont le nom m'échappe, mais voilà, lui, je l'ai bien aimé aussi. Et alors ça, vous avez raté, mais dans le dernier épisode, on a une très, très belle utilisation de mannequin en mousse, voilà, qui tombe de falaise, et c'est dont un mannequin en mousse qui est censé incarner Shahrukh.
Très bien, un bilan mitigé, du coup.
Mais il faut vraiment saluer la performance de Mathieu, parce que les gens qui écoutent là peuvent pas se rendre compte, mais le premier épisode, c'est 20 minutes de factuel, mais en ressenti, c'est 5h12. Le man s'est tapé les 13 épisodes. Enfin, je m'incline, j'applaudis, c'est incroyable.
Ça s'appelle la résilience.
Très belle performance. Hein,
Merci. Bravo. Merci. Je la prends volontiers, je l'enlace et je la garde avec moi parce que j'en ai besoin.
Je les rattraperai. Faites pas ça, Amandine, que vous ne sentez pas du tout obligée, mais je le ferai.
Non, ça m'a même pas effleuré.
Non.
Non, vraiment, ne le faites pas, n'insistez pas. Mais je le ferai pour le prochain épisode, pour honorer ta mémoire.
Merci.
Non, mais c'est que tout simplement, je n'avais pas trouvé les autres épisodes sous-titrés. Mais tu m'enverras les liens et je
le
ferai ça.
Heureusement, merci Mathieu de ne pas avoir dénoncé le... Sinon, on aurait dû la regarder aussi.
L'algorithme Dailymotion étant d'une pureté absolue me concernant, je pense que ça m'a assigné un deuxième épisode, directement. J'ai enchaîné.
Insulte mon algorithme Dailymotion. Waouh.
Non, mais je me suis dit, c'est bien. Et en fait, tu vas sur la fiche profil du mec qui a mis ça en ligne, Aditi, le funeste Aditi, eh bien il a tous les épisodes, il a plein d'autres choses d'ailleurs, si vous le voulez, des séries sans doute tout aussi lénifiantes. Faites-vous plaisir.
Anouk.
C'est drôle parce que j'ai aussi la référence AB Productions, donc c'est vraiment quelque chose qui m'est venu également, c'est marqué, j'ai même marqué AB Productions fauché. Sous-entendu, AB Productions avait vraiment la grosse moula à l'époque, et là c'est vraiment la version cheapos.
Ah, la philo selon Philippe, les décors quoi, enfin je veux dire...
Non mais voilà, donc j'étais pas perdue parce que j'ai grandi avec cette qualité de télévision, mais là il faut quand même bien reconnaître que c'est extrêmement amateur. Je vais pas insister, tout est nul, mais Shah Rukh Khan est là, et Shah Rukh Khan, j'ai noté qu'il était déjà pleinement formé. Alors j'ai dit fully formed parce que je prenais le temps d'anglais, parce que voilà, je suis cosmopolite bien sûr. Et c'est là où je suis peut-être pas d'accord avec les heures les plus sombres de Maggie Cheung, parce que Maggie... elle a démarré, c'était la petite souris, quoi.
Ouais.
On a mis du temps à voir apparaître Maggie Cheung. Là, t'as l'impression, Shah Rukh, il arrive, c'est Shah Rukh, quoi.
Ouais.
Alors, c'est Shah Rukh dans un petit rôle, la série est pourrie et tout. Tu sens bien qu'autour, je suis pas, mais Shah Rukh, il est déjà Shah Rukh, quoi. Et donc, t'as le côté, t'as plein d'aspects que tu vas retrouver dans tout ce qu'il va mettre dans ses personnages derrière. Le côté qu'au fond, il est sympa, il est quand même très facétieux, il est coquin. Il y a un truc, il y a l'œil qui pétille, quoi. Enfin, il y a déjà tout ça. Et effectivement, tu comprends, la caméra l'aime, parce que, genre, si tu veux, les mecs ne savent pas filmer. Mais tu peux pas ne mal filmer Shah Rukh Khan, parce que c'est toujours Shah Rukh Khan que tu filmes, quoi. Donc, c'est effectivement des moments où ils s'en sortent. J'ai pas kiffé Fauji, hein. Ne regardez pas ça, à moins que vous ayez la maladie de Mathieu, François ou Clem, d'être un peu complétiste ou quoi, ça n'a aucun intérêt. Mais il est là, il est déjà là, et il attend juste qu'on le repère, qu'on aille le chercher, et ce qui va se passer assez vite derrière, hein. Je pense pas qu'il... Voilà, c'est effectivement, comme tu disais, François, dans la biographie, il s'était donné un an pour réussir, il a pas galéré pendant des années, hein. on est pas... Mais parce qu'il était déjà là, en fait, il avait presque rien à apprendre, et en ça, Fauji est intéressant, et aussi parce que voilà, c'est rigolo de voir le côté vraiment super amateur du truc... Mais 20 minutes de ma vie, c'était amplement suffisant pour que je capte le truc. Mais je renouvelle mon admiration envers Mathieu avant de passer la parole à Amandine.
Amandine, je rebondis sur ce que dit Anouk. Effectivement, moi, je trouve qu'il a déjà en germe sa personnalité. Après, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup forgé dans ses pièces qu'il a pu faire auparavant en imitant d'autres acteurs, en particulier Dilip Kumar, auquel on l'a beaucoup comparé. Mais moi, j'ai l'impression qu'il est vraiment déjà là, comme disait Anouk.
Oui, et c'est pour ça que je fais tout de suite un disclaimer. Quand je disais, j'ai l'impression qu'on repart à Voilà Maggie, c'est moins sur le jeu que le fait que j'ai eu un peu peur, avec les premiers, là, de me dire, ça y est, François recommence à nous faire regarder des trucs complètement inintéressants pour trois plans au fond. C'était moins une question de jeu qu'une question de se dire, tiens, j'attends le plan où la personne que je dois regarder arrive, quoi, puisque le reste est totalement pourri et inintéressant. Alors moi, j'avais moins noté des références... télévisuel que je me suis vraiment dit oh là là, cata, musique d'ascenseur, des bruitages pourris, mais je me suis vraiment, la musique m'a choquée, j'ai trois lignes sur la musique, avec vraiment des, je me suis marqué gros problème de son, la musique qui permet de noyer l'absence totale de mixage, bon bref, l'horreur quoi, donc une horreur musicale a priori. Je pense aussi, alors moi ça m'intéresse pas du tout Fauji, enfin rien m'intéresse si ce n'est de Shah Rukh Khan, mais je me suis marqué quand même, il y a une espèce de pauvreté du décor, pauvreté du récit, une élocution hyper lente de tout le monde. Enfin, on doit dire un truc d'un peu de second degré. Et je conclus presque par globalement aucun intérêt, quoi, tu vois. Donc, je suis bien contente d'entendre Mathieu me dire qu'il y a des bonhommes en mousse à la fin et qu'il se passe un peu de la guerre. Parce que moi, sur le premier épisode, vraiment, je me suis dit, bon, bah ouais, là, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Et par contre, concernant Shah Rukh, je suis d'accord avec vous, il y a quelque chose. Bon, c'est pas... je suis pas sûre que je l'aurais repéré dès le premier, comme ça, premier épisode. Mais Je me suis marqué capillarité en devenir. On est sur une base cheveux qui va devenir un grand plus. Et alors, bah, comme Mathieu, hein, c'est des choses qu'on a regardées il y a 3 semaines. Donc alors là, j'ai une note cryptique. Mais peut-être que Mathieu, notre fin gourmet, va le savoir. Je me suis marqué gâteau noix de coco épisode 1. Donc, je ne sais quoi faire avec
ça. C'est forcément l'épisode 1, j'imagine.
C'est forcément l'épisode 1. Il y a une histoire de gâteau noix de coco qui avait l'air suffisamment intéressante pour que je prenne la plume pour l'écrire dans mes notes. Mais rétrospectivement, ça ne me dit absolument plus rien.
Je crois qu'à un moment, il est censé partager son gâteau avec, avec d'autres gens, non ?
Ouais. C'est ça. En fait, il brise le pain de l'amitié. Hein. En fait, il se partage les gâteaux de noix de coco. En fait, je crois qu'il y en a un qui le gagne, qui gagne le gâteau parce qu'ils font un pari. En fait, celui qui gagne, il partage. Parce que l'armée, avant tout, c'est une histoire de fraternité. Hein. C'est une histoire de partage, de solidarité.
Donc là, je pense que pour gagner des auditeurs, on va insérer une recette, les meilleurs gâteaux aux noix de coco de Mathieu. Ça me paraît bien.
On va faire du SEO, là. On va optimiser pour Google.
Tu parlais de capillarité en devenir. J'ai une info là-dessus. Car je suis un homme de recherche également. Je ne suis pas seulement un homme de résilience.
Quelles sont tes sources ? Quelles sont tes sources ?
Il y a un site qui s'appelle The Story of Fauci.
Ok.
C'est un article. Il y a quelqu'un qui a fait un article là-dessus et qui quand même rétablit la vérité, hein, qui dit que c'est une série complètement horrible, qui ne mérite pas d'être regardée, mais qui explique que justement, Rajkumar Kapoor a demandé à Shah Rukh Khan de se couper les cheveux pour la série. Voilà. Donc il avait sans doute une sacrée tignasse et comme à l'armée, on lui a demandé de se couper les cheveux. Voilà, c'est très important comme fun fact pour la série. Ça changera rien du tout à votre visionnage, mais sachez-le quand même. Et une dernière chose qui pourrait éventuellement motiver Anouk à regarder, si ce n'est la série entière, au moins le 13e épisode, il y a des bloopers.
Ah, ok. Ouais, peut-être oui. Le 13e. Ok.
Voilà.
Okay.
Donc si tu vas, allez, c'est on va dire... 17e minute du 13e épisode, tu verras, il y a des bloopers. C'est pas des bloopers Jackie Chan, hein, on n'est pas dans le même fun. Mais il y a quand même des bloopers, voilà.
Ok, est-ce que avant qu'on passe au truc suivant, à moins que tu veuilles qu'on épilogue encore 1000 ans sur Fauci, je pose 2 petits jalons. Vous savez que des fois, j'aime bien, je lance des pelotes, je vois où mm-hmm. elles arrivent. Là, j'ai noté qu'à un moment, tu as parlé dans sa biographie, il imitait les acteurs masculins et une actrice également. Et là, à un mm-hmm. moment, j'ai marqué, c'est le seul endroit où j'ai pris des notes, hein, pour le reste, je suis sans filet. Mais là, j'ai marqué, il fait la femme de la pub, parce que je pense qu'à un moment, il déconne un peu entre eux et du coup ils imitent une femme. Et également à un moment j'ai noté que dans leur amitié de chambrée, parce qu'ils sont dans des voilà comme peut-être comme à l'armée ou dans des situations de fac qu'on a pu voir un peu c'est des chambres où ils sont plusieurs garçons, qu'il y avait une dimension quand même homoérotique. Je pose ça là, peut-être qu'on le récupérera à d'autres moments dans la carrière de Shah Rukh. Qu'il y a en tout cas une dimension qui va un peu venir contrarier cette image virile du héros, parce que là déjà il y a on tend vers la féminité ou on tend vers quelque chose d'autre, de pas viril.
D'accord, c'est posé là, on le laisse là.
Mais toi François, qu'est-ce que tu en penses de Fauci, parce que tu ne t'es pas exprimé?
Ah bah je pense que la description que j'ai donnée au début parlait pour elle-même, hein. non
c'est un soupir.
Oui c'est un soupir, je vois à peu près tout, effectivement pareil, j'aurais pas misé sur Shah Rukh, mais il est déjà là mais pas assez pour sauver ce truc là du marasme, mais je regarderai les autres épisodes du coup pour avoir une vision plus complète et être encore plus amer que ça, je pense. Il fait d'autres apparitions. Alors, pareil, j'ai regardé le premier épisode d'une série où il apparaît. Cette série s'appelle Circus. On suit les aventures d'un cirque. Et c'est il joue le patron du cirque, un peu Golden Boy. Et sans sous-titres, c'était pas facile. Très honnêtement, il y a les scènes de trapèze. Ça m'a fait penser à la scène de trapèze dans SS 117. C'est pas bon signe. voilà. Et c'est pareil. Il y a des clowns. C'est filmé. Enfin, c'est qualité VHS, c'est rude, hein, c'est du rail. Par contre, il apparaît alors en troisième, quatrième rôle, hein, très honnêtement. C'est un peu un espèce de... Est-ce que c'est un espèce de comic relief doux amer? Je ne sais pas, on va en parler. Il apparaît dans un téléfilm qui s'appelle In Which Annie Gives It to Those Ones. Téléfilm en langue anglaise avec tout de même que des dialogues hindi, diffusé sur la chaîne publique indienne Doordarshan, fin des années 80 toujours. Réalisé par Pratip Krishan écrit par l'autrice Arundhati Roy. C'est un récit qui est d'inspiration semi-autobiographique, comme le futur best-seller de l'autrice Le Dieu des Petits Riens. Le Annie du titre, c'est Anand Grover, un étudiant en architecture qui est saqué par son principal, dont il s'est moqué, et qui vivote dans sa quatrième, cinquième année d'archi. Il vit dans une résidence où il y a une poule, dont ils vont les œufs. Il imagine des systèmes de compost au bord des voies ferrées. Le film très curieux qui va un peu dans tous les sens, qui en même temps est assez euphorisant. Je sais pas, il y a une énergie qui, moi, m'a surpris, avec un ballet, encore une fois, de personnages, parfois déconcertants, parfois amusants. Il y a Shah Rukh, qui a un tout petit rôle où il se démarque un petit peu, mais sans voler la vedette, donc il est là. Voilà, il n'y a pas de tour de force à ce niveau-là. Anouk, c'est un film qui t'a beaucoup enthousiasmé.
Mais j'adore. Oui. Alors, effectivement, ça n'a rien à voir avec Shah Rukh Khan. Je m'excuse auprès des fans de Shah Rukh Khan qui écoutent le podcast, qui adorent Shah Rukh Khan. Je dois aussi confesser une passion pour Arundhati Roy. J'ai lu ses deux romans et une collection d'essais qu'elle a fait. Et en faisant des recherches au moment où je lisais un petit peu du Arundhati Roy, je faisais des recherches sur elle, je lisais un peu des articles et tout. J'étais tombée sur deux photos que j'avais trouvées magnifiques et que j'avais imprimées au travail. Mathieu, spécial dédicace, nique le travail, on prend leur matos et on. Et on s'excuse pas. Et donc, du coup, au-dessus de mon bureau, pour vous expliquer le contexte, j'ai acheté un panneau en liège, parce que voilà, je suis une daronne, et j'ai épinglé des photos d'Arundhati Roy qui me semblaient des photos d'elle au travail. Et en réalité, j'ai réalisé, en regardant In Which Annie Gives It to the Swans, que c'était c'était tout simplement des extraits, enfin des screens du film. Parce que dans ce film, l'héroïne est la personne qui écrase tout le monde de son charisme, de sa présence, de son humour, de sa beauté. C'est Arundhati Roy qui joue du coup l'héroïne, même si c'est un film assez choral. Qui donc, en plus de l'écrire, en gros, c'est son mec qui est de l'époque qui a réalisé. Ouais. Et du coup, elle a joué dans le film qu'elle a écrit. Tu sens qu'il y a une ambiance assez indé, quoi. C'est-à-dire, on va faire notre projet, on va aller au bout et tout. Enfin, du coup, j'adore ce film parce que j'adore Arundhati, parce qu'il y a une fraîcheur incroyable dans ce qui est montré. Enfin, même aujourd'hui, et d'ailleurs, tu voyais un peu dans les commentaires YouTube des gens qui disaient « Ah, mais pourquoi on n'a plus de films comme ça aujourd'hui ?» Alors, il y en a sûrement, peut-être qu'ils n'ont peut-être pas d'exposition, mais un film qui, tout simplement, montre quelque chose d'assez assez proche du réel. Alors, c'est un film de 89, mais qui, a priori, se passe quelques années avant, donc tu as vraiment une ambiance un peu hippie, avec des musiques.
C'est années 70.
Et t'es vraiment avec eux. Tu vis vraiment un film de fac indé, un peu contre-culture, avec du coup Arundhati qui, elle, joue un personnage, une étudiante qui est plutôt critique envers le rôle de l'architecture. Est-ce que sa position est tout à fait intéressante? Et finalement, même si le film tourne pas autour de ça, il tourne autour de la vie étudiante. Il te montre juste ce qui se passe, et moi je trouve ça passionnant. Effectivement, même si j'adore le cinéma indien, c'est pas des choses qu'on voit beaucoup aujourd'hui, de ce côté un petit peu indé. C'est presque un mumblecore, mais 20 ans avant, quoi. Et donc j'ai adoré, je trouve que l'image est superbe, enfin la réalisation est vraiment bien, et voilà, enfin, je peux parler de Shah Rukh, hein, il est là, il est pas transparent du tout, hein, quand il est là, on le voit, mais en même temps, je vais pas... Ce serait faire semblant que de dire que j'ai pas été écrasé par Arundhati, je dirais écrasé au sens où j'étais volontaire, hein, je veux qu'elle me marche dessus, enfin je veux dire, je l'ai adoré, j'ai regardé une première fois dans la version que tu nous avais envoyée, François, et puis après j'ai trouvé une version avec des sous-titres, donc j'ai regardé une deuxième fois, peut-être deux, c'était trop, mais ça m'a permis au moins de mieux comprendre certains enjeux du film. Non, mais c'est bien écrit, ça m'intéresse, c'est une ambiance un peu 70s et tout, et puis Arundhati, quoi, enfin voilà. Bon, après moi, ceux qui écoutent depuis longtemps savent que j'ai une relation social un peu intense avec certains acteurs, actrices, voilà. Là, je suis un peu tombée amoureuse d'Arundhati Roy, clairement, voilà. Mais c'est pas rien, et il y a une raison. Donc voilà, je vous encourage à trouver ça en pirater sur YouTube, trouver la version avec les sous-titres, c'est vraiment à voir.
Non, mais personne ne te jugeait, et personne ne t'en voulait, au contraire, je crois qu'on est tous avec toi, toutes et tous avec toi. Amandine, est-ce ton cas également?
Ah oui, c'est fabuleux, c'est un film... Alors là, je serais un tout petit peu plus sévère qu'Anouk sur que Shah Rukh n'est pas transparent. Bah, bien sûr que si, qu'il est transparent. Enfin, j'ai dû faire des captures d'écran de sa présence à gauche à droite, mais il a clairement pas de rôle. Enfin, je sais pas où tu le vois émerger quelque part là-dedans. Elle est éblouissante. On a un phénix au milieu de l'image. Les autres acteurs sont bien, son compagnon Annie, tout ça, ça marche à fond. Bah moi j'étais cueillie aussi, et puis d'avance déjà j'adore tous les films, bah évidemment dans le milieu universitaire ça m'intéresse, c'est un milieu que j'ai jamais quitté, donc je vais pas dire que ça m'intéresse pas. Il y a un attrait immédiat chez moi pour l'histoire de cette jeunesse. J'ai été passionnée par notamment toute la fin, là, quand ils doivent faire leur soutenance un peu de mémoire autour de leur projet. J'ai trouvé que c'était hyper pertinent. Déjà, toute la réflexion autour de à quoi ça sert de construire, qu'est-ce qu'il faut construire, les espaces publics. Enfin, ça m'a paru très mature, très mûr pour un film qui, au départ, était vendu comme un truc un peu télé, un peu, voilà. On sent, en fait, c'est marrant, ça, l'espèce d'état de grâce du premier film ou d'état de grâce d'un projet qui est hyper porté par la bonne histoire, les bons comédiens, le bon moment, que tout le monde est content d'être là, quoi. Et ça se voit, ça se sent. Il y a une forme d'universalité qui naît derrière ce type de projet, ce type de film. Donc évidemment, alors Anouk dit que Arundhati écrase. Moi, j'ai marqué, souligné avec des cœurs, elle irradie. voilà, on sort de là en se disant, mon Dieu, mais qu'elle est éblouissante, belle, qui est cette femme? Tant mieux, ça va peut-être mener des gens à sa littérature. Hein. Mais en tout cas, c'est, voilà, je trouve qu'on sent, dans ce film une forme d'intelligence du projet, quoi. Et ça, c'est précieux. Alors évidemment, il y a des défauts. Hein, faut pas non plus que nos auditeurs, auditrices aient l'impression qu'il faut qu'ils se jettent dès ce soir. Ils peuvent pas continuer à vivre sans voir ça. C'est pas vrai. Mais en tout cas, je trouve que là, il y a une forme d'honnêteté. Et moi, le film, j'avais pas envie. Autant Faoji, j'ai eu l'impression que je regardais toutes les minutes qui passaient, quoi. Autant là, le film, j'ai pas regardé le timecode une seule fois, quoi.
Oui, c'est fragile, mais tu sens qu'ils avaient envie de le faire pour des bonnes raisons. Ils l'ont fait de manière honnête. C'est vraiment un bon mot. C'est à ça que je pensais juste avant que tu le sortes. Je me disais, mais vraiment ça, quoi. C'est honnête et c'est intéressant. Ouais, c'est fait avec cœur et pour des bonnes raisons, je pense.
Non, il y a ce rythme et cette facture qui sont un peu déconcertants, qui peuvent te perdre parfois, mais il y a une luminosité dans la façon d'échanger la parole. Les comédiens sont tous bons. Charouk, est bon aussi.
Mais il a les cheveux plaqués, les amis.
Oui. Ah oui, par contre, niveau look, c'est la catastrophe, mais c'est le personnage qui veut ça.
Oui, voilà, ils ont neutralisé Charouk au niveau du look.
Est-ce que Rajkumar Kapoor, finalement, n'avait pas raison de lui couper les cheveux? Parce que bon, quand on voit cette coupe de cheveux très particulière, bon, je ne sais pas. Voilà.
Non, mais là, parce qu'il y a eu un crime de fer à lisser. Ça, c'est
Ah oui, c'est clair. Non, le Babyliss, là, c'est le Babyliss du diable. C'est pas possible. Non.
En dehors de ça, Mathieu.
Moi, j'ai marqué, concernant Arundhati Roy, j'ai marqué magnétisme, voilà, chacun son mot.
Oui, voilà, carrément.
On est un peu dans un épisode de pyramide.
On est tous d'accord, c'est ça.
En trois, magnétisme.
En trois briques.
Et moi j'ai marqué aussi que c'est doux. Je trouve que c'est un film qui est très doux, en fait. C'est un coming of age story, comme on n'en voit pas beaucoup, dans le sens où. C'est là que je trouve que c'est très doux et très rafraîchissant aussi, c'est qu'en fait on montre des choses qu'on ne voit jamais dans les teen movies. En particulier dans les teen movies occidentaux, mais j'imagine que.
Il y a des poules.
Oui. De quoi ? Il y a des poules ?
On les montre jamais dans les films occidentaux.
Non mais voilà, je sais pas, le teen movie c'est toujours un truc de compétitivité, de se montrer, de se distinguer des autres, etc. Là il y a une forme de, je sais pas, c'est un groupe soudé, parfois, pas toujours, mais c'est un groupe quand même, il y a une forme de solidarité. C'est ce que Faoji n'est pas, d'une certaine manière. Un truc sur la solidarité, sur une tranche de vie qu'on partage, un groupe qui débouche sur quelque chose, mais qui, cette fois-ci, ça marche, quoi. C'est extrêmement bien fait. Puis, cette façon de montrer la glandouille, l'entraide, les blocs de groupe, les amourettes, les soirs, faire le monde, etc. Pour moi qui n'ai pas fait énormément d'études, j'en regarde quand même un souvenir très, très nostalgique. Et pour moi, c'est ça, en fait, la vie étudiante. Et il y a une scène, par exemple, que j'adore, c'est la scène quand l'étudiant ougandais, en fait, il fait tomber son encre sur son travail et qui panique complètement, et il y a son pote qui vient l'aider pour lui dire « Non, t'inquiète pas, on va se débrouiller, et tout machin. » Et avant ça, il l'avait réveillé, en fait, il se met des réveils, etc. Voilà, je trouve que c'est hyper bien amené, que ce
oui, tu les vois qu'on... vraiment bosser, quoi. C'est pas juste exactement. La vision dehors. Enfin, ils sont vraiment tournés vers leur diplôme et en même temps, il y a tout le dehors. Moi, j'adore les scènes de ping-pong. Ils sont pas bons au ping-pong. Ils passent leur vie à jouer au ping-pong. Oui. Ils sont nuls au ping-pong. Voilà, ça, c'est ça que je veux voir au cinéma, quoi.
Mais oui, exactement. C'est ça. C'est juste pour voir des gens qui passent le temps, mais le temps à faire des choses ou pas. Et voilà, c'est sûr que c'est extrêmement bien amené. Et en plus de ça, c'est un film d'une certaine manière positif. Mais sans être naïf, quoi, parce que on est face à un groupe de gens qui est globalement idéaliste ou en rébellion, si on prend le personnage de Aruna Tiroy, et qui veut changer le monde d'une certaine manière, mais tout en sachant très bien qu'en fait c'est extrêmement compliqué et que pour y arriver, il faut faire partie d'une élite. Une élite qui veut pas forcément voir le monde changer, et que eux, d'une certaine manière, en faisant des études d'architecture, ils font déjà partie d'une élite. Ils parlent tous anglais, qui est une langue qui est quasiment pas pratiquée. Je crois qu'à un moment, il y a une personne, je sais plus si je l'ai lu dans un article ou si c'était dans un dialogue où la personne disait on parle anglais, enfin une langue que personne ne parle dans notre propre pays. Voilà, l'obtention de leur diplôme, elle est indexée sur les appréciations de vieux croutons, quoi. Donc des gens qui sont pas forcément ouverts vers le futur, etc. Et je trouve que c'est extrêmement bien aimé ce côté de dire qu'en fait on est face à une population de jeunes qui veulent que le monde change sans que finalement ils puissent y arriver d'une certaine manière. Voilà. Et puis il y a un méchant. On n'en a pas parlé, mais cette espèce de professeur...
Le prof, c'est pas vraiment un méchant. Hein.
Non, c'est pas un méchant, exactement, mais c'est un mix entre John Cassavetes pour le physique et Jean-Louis Trintignant dans Le Grand Pardon, pour le personnage, on va dire. Les vrais reconnaîtront.
Vous sentez l'huile, Annie.
Voilà. Mais non, c'est pas un méchant, c'est une personne qui a été humiliée, en fait, et qui le fait payer à Annie. Et en plus, pendant tout le film, tu sens que c'est un quiproquo, en fait. C'est pas de vrai... méchanceté de la part de Annie, voilà, donc c'est vrai que c'est un faux méchant. Puis surtout, il vient l'aider, quoi. Et à un moment, il vient le récupérer, il vient le sortir de tôle. Parce qu'il est considéré avec une prostituée, j'imagine, je sais pas, une danseuse orientale, danseuse exotique, je sais pas. C'était doux, j'en suis ressorti avec une bonne sensation, j'étais content d'avoir fini ce film. Mais j'ai fait comme toi, Anouk, j'ai revu avec le lien que t'as renvoyé derrière, voilà, pour encore mieux comprendre. Et puis, il y a cette BO, quoi. Parce que la BO, elle est... Enfin, moi, j'adore la BO parce que c'est un film sur les années 70. Sur les films des années 70, on a toujours la même BO. Et là, on a des trucs qu'on n'entend pas habituellement.
La deuxième version que j'ai envoyée n'a pas coupé pour des raisons de copyright. Elle a moins été strikée que l'autre. Enfin, du coup, il y a des moments où tu as des silences pour des chansons des Beatles ou l'on sait rien, tu vois, les Rolling Stones. Ouais. Et du coup, je crois que dans la dernière version, il y a un peu plus de son. Et effectivement, par contre, c'est très occidental pour le coup, comme BO. Hein. C'est vraiment.
Ce qui est normal.
Tu sens qu'à l'époque, ils baignent, je pense, dans cette ambiance-là, parce que c'est des étudiants qui sont effectivement très anglophones, voilà, qui baignent dans cette culture-là, quoi. Donc je pense que c'est complètement sincère, mais du coup, c'est plutôt à ce type de BO qu'il faut s'attendre. Et la bonne version, vous trouvez des choses que vous ne trouvez pas ailleurs sur YouTube, parce que je crois qu'il n'y a pas les Beatles ou les Rolling Stones sur YouTube, quoi.
Bon.
Et toi, François ?
Un peu déconcerté par le rythme. Oui, pour un téléfilm, c'est quasiment un film d'auteur. Enfin, ça passe pour un film d'auteur, oui. Effectivement, complètement contemporain. Oui, enfin, oui. C'est d'une grande maturité dans les dialogues, dans la façon de mener le récit. J'étais à la fois dérouté, charmé. J'attendais de voir un petit peu plus de Charouk, très honnêtement, mais c'est pas grave, effectivement. Aruna Tiroy, quoi. Ça, voilà, t'oublies Charouk, ouais. Ce qui est quand même fou.
Désolé, chat, mais ouais, Arundhati...
Pareil, impression de voir un film d'époque aussi, ce qui est très curieux pour un film de 89, mais ouais, très, très attachant. C'était une très heureuse surprise à la mesure de la déception, mais montante, du dernier titre qu'on va aborder ensemble. C'est 3 heures d'une adaptation de L'Idiot, une adaptation contemporaine de L'Idiot, de Dostoïevski. Je l'ai dit à plusieurs occasions, je suis une Dostobitch, j'adore Dostoïevski, dans les traductions d'André Markovitch en particulier. Là, c'est par un auteur indien qui s'appelle Manicole, dont plusieurs films sont ressortis il n'y a pas longtemps, c'est ça, Amandine ?
Oui, c'est ça, il y a une rétrospective en janvier de l'année dernière, janvier 23. Magnifique rétrospective incarnée, alors avec en gros sur l'affiche, le secret bien gardé du cinéma indien. Et du coup, je me lance, c'est ça ?
Bah, juste donner un premier avis qui se résume bien. Shah Rukh Khan joue plus ou moins Rogojin, enfin l'amoureux maudit du roman de Dostoïevski. Et au début, je suis engagé par la mise en scène, et au bout de 10 minutes, j'ai l'impression d'être pris dans une machine infernale. Dans un épisode précédent sur Sofia Coppola, je disais que Somewhere, j'avais l'impression que ça durait 7 heures au total, dont 4 heures pour le dernier quart d'heure. Mais là, putain, le premier épisode, je l'ai fait en 3 fois. C'était une montagne, mais difficilement franchissable. Les épisodes d'après, pareil, je trouve ça confus. Amandine, qu'est-ce qui se passe? Où est-on? Pourquoi?
Il se passe que moi, j'étais prête à crier au génie, puisque je sortais de la rétrospective en salle, je sortais du secret le mieux gardé de l'histoire du cinéma indien, j'avais eu la chance de présenter donc, les films de Manicol, qui sont les 4 qui sont ressortis en France. Il faut savoir que voilà, Manicol, c'est vraiment un peu un mythe, c'est un personnage, c'est un réalisateur qui, avec 2-3 autres de sa génération, on les a vraiment appelés le nouveau cinéma, quoi. Ils incarnent quelque chose, une forme de révolution. Et il a sorti des chefs-d'œuvre en 69 et dans les années 70. Et notamment, je peux que vous le dire et vous l'indiquer, mais j'en reparlerai certainement parce que son remake est avec Shah Rukh Khan, pas Ellie, donc on va en reparler, mais il a fait Duvida en 73, qui pour moi est vraiment un des plus beaux films indiens, quoi. Donc, en gros, j'étais chaud bouillant pour dire « c'est génial, les gars, vous allez voir Manicol, Manicol, Manicol ». Et là, en fait, je m'en pourléchais les babines, moi, de mon idiot, en me disant « putain, Dostoïevski, Manicol, quoi, l'affiche de fou ». Et alors là, je sais pas, je comprends rien. C'est une catastrophe. La chute. La mini collinette que j'avais montée avec Annie est retombée d'aussi sec, quoi. À ce niveau-là, je pense que c'est même pas passé à côté d'un film. Je suis restée complètement pire que de marbre. Ça m'a complètement perdue. Dès le départ, en fait, au bout de quelques minutes, je me suis dit « oh là, ça va pas aller ». Ce truc incarne plein de choses que moi, personnellement, je n'aime pas en cinéma. Notamment la filiation, quand les films sont trop proches d'une esthétique un peu théâtre, tout ce qui est théâtral. J'avoue que je suis pas très fan de tout ça à la base. Le côté très posé, très statique, il parle à 2 à l'heure, c'est un enfer. Le héros, il parle de façon hyper artificielle. La mise en scène n'est pas du tout dynamique, on comprend rien. On a l'impression qu'on passe, comme au théâtre, d'un lieu à l'autre, que les décors changent, mais il n'y a aucune mobilité, en fait, du cadre ou quoi. Donc moi, ça sentait mauvais dès le départ, où je me suis dit, là, je ne vais pas aimer. Il y a trop de choses que je n'aime pas, malgré tout ce que j'adore chez Manicol. Qu'est-ce qu'il est allé se fourrer dans ce machin? Et l'acmé, pour moi, ça a été vraiment... Il y a une scène en particulier, je l'ai noté dans la partie 3 des fichiers que tu nous as envoyés. Un espèce de face-à-face entre Shah Rukh Khan et le héros, sur un banc, soi-disant en extérieur. Ils ont un énorme spot qui tombe d'un arbre au-dessus d'eux. Il n'y a aucune raison d'avoir de la lumière comme ça. Et là, je me suis dit, là, c'est vraiment... J'ai l'impression de revivre des heures sombres où tu enchaînes, parce que ça doit être génial, les adaptations de Beckett au théâtre, quoi. Le minimalisme, un spot, voilà. Et là, en fait, ça m'a fait mal à mon Manicol. J'aurais aimé rester dans ma petite bulle de la rétrospective. Bon, j'aime bien, évidemment, je trouve que Shah Rukh Khan, c'est celui qui s'en sort le mieux, évidemment. Mais j'ai tellement rien compris, j'ai tellement rien reconnu de ce que j'aimais dans le bouquin, j'ai tellement pas eu envie d'aimer que en fait je suis obligée de l'avouer. Là pour le coup, je ne reconnais pas Manicol, je ne reconnais pas ce que j'aime dans son cinéma, je pense que potentiellement on l'a forcé à faire ça, il y avait un flingue sur la tempe, je vois que ça.
Effectivement, la question mérite d'être posée. Mathieu, il me semble que tu as minima Dosto curieux.
Oui, moi, j'ai jamais lu Dostoïevski. Disclaimer. Je suis un faux. Ouais, je sais, mais moi, tu sais, les livres de 1000 pages, ça me fait peur. Voilà. Non, mais vraiment, c'est comme. Si l'eau, elle est trop froide, moi, je saute pas dedans. Voilà, c'est pas possible. Ceci étant, je suis tout à fait d'accord avec toi, François. Moi, j'ai beaucoup aimé la première séquence, que je trouve très dufteuse et onirique, tout embuée. En fait, on a l'impression qu'on sort d'une torpeur, une sorte de rêve, quoi. Je me suis posé la question de savoir si c'était dû à la qualité déplorable du film, de la qualité, enfin, dans lequel on l'a vu, en tout cas, ou si c'était vraiment voulu, mais bon, dans ma grande mansuétude, je me suis dit que c'était dû à Manicole. Voilà. Enfin, comment dire, un parti pris qui a été complètement annihilé par la suite, hein, parce que quand tu vois les partis pris de mise en scène, qui sont un peu qualifiés d'assez peu aventureux, pour pas dire inexistants dans certains cas. Voilà, je me suis dit qu'il a tout mis dans cette scène, puis après il est passé en pilote automatique, direction Château-Vallon. Mais cette première scène, par contre, je vais faire appel à toi, qui est donc une Dostobitch, mais qui est également une Zola Skizouze.
Oui, par rapport à l'amour braque.
Bien sûr, la scène d'intro de l'amour braque, ça m'a fait penser directement à l'intro de l'amour braque, avec évidemment beaucoup moins de fièvre, hein. Mais quand même un peu de torpeur aussi.
Et moins de Francis Huster.
Et moins de Francis Huster et de Checky Cario, qui est plein de sueur. Mais quand même, voilà, ça m'a fait penser à ce truc-là, et c'est vrai que ça commence bien, tu dis « Ouh !» C'est pas mal. En plus, il y a cette espèce de musique dissonante, parce qu'autant la musique là de Faouji, c'était un calvaire, mais de toutes les minutes, autant cette espèce de musique dissonante qu'on a avec des espèces de descentes de synthé escarpées, on dirait que c'est un mec qui tombe des escaliers avec son synthé sous le bras, quoi. Et je trouve que c'est un des rares gimmicks du film qui essaie de te plonger un peu dans une atmosphère étrange. Bon, après, c'est bien mec en comparaison du reste, mais il y a quand même quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a essayé d'être fait avec la musique, avec le visuel. Bon, bah, il y a pas grand chose qui a été fait, hein, puisqu'on a des panoramiques, des travelling qui sont d'une incroyable lenteur partout, c'est insupportable. Il y a des mouvements qui servent à rien.
Tu peux pas faire une adaptation plus éloignée de l'amour braque, de l'idiot, que ça, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Et faut finalement, en plus, enfin, les mouvements de caméra, moi, ça me rend fou, parce qu'en fait, tu finis avec des personnages au centre. Tu dis, mais en fait, ça sert à rien de faire. Fais pas un travelling dans ce cas-là, fais juste un... Enfin, tu vois, je sais pas. Voilà, du coup, c'est des espèces de remplissage filmique, en fait, une espèce de moulinette de bras, on dirait un oiseau qui gonfle son plumage pendant une danse nuptiale, quoi, pour impressionner qui, on sait pas. Mais voilà, et puis t'as une esthétique de film à nichon RTL 9, quoi. C'est assez dérangeant, un peu. Mais dans un même ordre d'idée, et dans le côté aussi Charouk, un peu homo-érotique, je trouve que Ayoub Kandin, on se demande bien ce qu'il fout là, lui aussi, d'ailleurs, le pauvre. Mais c'est un mood, quand même. Parce qu'il y a un petit Marcel Jeune par-ci, on a un petit Turtle Neck Rose par-là. Il y a quand même des choses qui sont tentées d'un point de vue du style. Voilà. Mais après, bon, il n'y a pas...
C'est timide, hein. C'est timide.
Ouais, c'est très, très, très timide. Mais pour en finir avec ce film, moi, en fait, je me suis posé la question de savoir s'il était plus important de faire à manger que de regarder l'idiot. Et eh ben, parce que j'ai fait les deux en même temps, hein, sur un gros quart du film, et eh ben, j'en suis venu à la conclusion que faire à manger, c'était plus important. Quand même. Voilà.
De la part d'un mec qui s'est tapé 13 épisodes de Fauci. Donc voilà, il faut remettre en contexte quand même.
Voilà.
En vrai, la souffrance n'a pas été la même, et je trouve que Fauci passe mieux. Voilà, je vous le dis, quoi. Après, je pense qu'il y avait l'espèce de chape de plomb de Dostoïevski, de la grande œuvre, et que évidemment, enfin, naturellement, tu regardes ce truc, tu t'attends à avoir quelque chose de bien ou d'un minimum correct. Et...
Ouais, ouais. Non, mais effectivement, le contexte, c'est pas...
Je suis parti, j'attendais rien. J'ai quand même été déçu, évidemment, mais j'attendais rien, voilà.
C'était Vincent Macaigne qui avait adapté l'idiot de Dostoïevski au théâtre et qui se justifiait de ses partis pris très, très bourrins, très, très violents. Il détruisait la scène plus ou moins chaque soir, et ses comédiens, par ailleurs. Et il disait que, en fait, Dostoïevski, c'était un auteur de l'hystérie, et que dans l'idiot, et effectivement, quand tu lis l'idiot, les personnages ne se disent pas les dialogues, ils se les hurlent, en fait. Tout le monde est très énervé, tout le monde part dans des colères noires, tout le monde se met à hurler de tristesse, de joie, parfois, quand il y en a. Là, ça ne se sent pas du tout. Enfin, Anouk, je sais pas... l'idiot.
Oui, c'est neurasthénique. Hein. Alors moi, je suis pas une Dostobitch, pas un Dostocurieux, je suis un Dostonormcore. J'ai lu Crime et Châtiment, j'ai lu L'Idiot, j'ai adoré. J'en ai pas lu plus et je n'ai pas retrouvé effectivement du tout là. Alors que t'as envie de te dire, je mate un film, de lire un bouquin, je suis censée avoir la facilité du kiff, quoi. Non, là, j'ai souffert beaucoup plus sur l'adaptation filmique qu'en lisant, dans mes vieux souvenirs, hein, c'était vieux, c'est il y a quelques années que j'ai lu ça, mais je me souvenais bien que je m'étais pas fait chier. Et là, je me suis fait, évidemment, super chier, donc c'est un peu dommage de finir avec moi, parce que j'ai rien de plus à ajouter. C'est chiant, c'est raté. J'ai rien contre Ayoub Kandin, voilà, donc le héros, il a ses petits Marcel, il a sa petite barbe, il est sympa. Charouk est là, hein. Encore une fois, Charouk est là. Ouais. Moi, j'ai vraiment absolument rien contre... Mais même les autres acteurs, bon, il y en a qui en font un peu plus des caisses, mais il n'y a pas de problème. le projet global, je ne sais pas ce qui marche pas, mais ça marche pas. Vous avez parlé de musique, alors je n'ai plus mes notes là, parce que je crois que des notes n'ont jamais existé, mais il me semble bien qu'il y a des moments où il y a de la musique un peu genre popo, un peu cirque, alors que t'es genre dans une tragédie depuis 4 heures, enfin genre ça n'a aucun sens en fait. Genre soit tu veux me faire un truc plombant et bon mais plombe-moi jusqu'au bout, mais genre il y a vraiment des trucs poète-poète qui du coup désamorcent ce truc qui n'a jamais marché à la base, enfin ça n'a pas de sens, ça, voilà. C'était pas à faire, mais on n'en veut pas à Charouk il fait le taf, et attends, si, j'ai eu un bout d'enveloppe où j'ai marqué, et ça je crois que ça vient de l'idiot, j'ai marqué incandescence, ça parle de Charouk. Rire désespéré, un peu triste, ça parle de Charouk encore. Intensité et coquinou. Et coquinou, je pense que ça fait référence à un peu ce que tu disais, Mathieu, sur il est très kiki. Voilà, c'est ça. Charouk est encore là, tu vois. Genre, ça, c'est mes petits. Ça, c'est les 4 mots que j'ai notés en voyant l'idiot qui dure encore une fois, genre, je sais pas, 3h30, 4h. Rien n'a d'intérêt, mais il est là. Et il est déjà en germe de toute cette coquinerie, toute cette facétie. C'est tout là. On attend juste de voir un bon film.
Épisode 1, la mue du kiki en coquinou. C'est ça que vous êtes en train de dire.
Il est où le kiki ?
Non mais voilà, l'adaptation, elle est ratée. Voilà. Retenez Arunda Tiroi de cet épisode. Et puis pour Charouk, on jump au prochain. Parce que voilà, là, évidemment, on se fait chier. Et surtout, ne vous basez pas là-dessus pour Dostoïevski. Parce que vraiment, Dostoïevski, c'est fun. Ça n'a rien à voir avec ça. Quoi.
Mais moi, Charouk, je trouve qu'il est même en pleine puissance quand même. Parce que la scène de l'épisode 2, là, où justement Miskin vient chez lui et qu'il se pointe et il est... C'est formidable. J'ai écrit « La colombe majestueuse est dans sa volière, avec ses rideaux qui font des volutes et son torse glabre sous une chemise immaculée, son visage caché derrière des branches de tilleul. » C'est ça, quoi. C'est le Charouk, il est là, tu vois.
Mais c'est ta capture d'écran. Il faudra la donner aux auditeurs, il faudra la mettre sur les réseaux. Diffuse, voilà. Parce que ça effectivement...
Incroyable. Incroyable, quoi. Il se fait passer sa petite branche sur le nez, genre... J'ai un mauvais tour à jouer. C'est incroyable, quoi. Enfin, et en plus, t'as l'impression qu'il est en roue libre, parce que autant les deux autres trucs, tu disais bon, il a un peu, il ronge son frein. Là, je pense que Manico lui a dit, tu sais quoi, vas-y, fais ce que tu veux. Et le mec, il est parti. Et c'est le seul finalement qui colle peut-être à un truc très très Dostoïevski.
Non, mais faut se rendre compte que dire aujourd'hui à Charouk Khan, fais ce que tu veux, il fait un caméo, c'est Charouk Khan évidemment. Mais à l'époque. Personne le connaît, le gonze. Donc il y a cette assurance. Enfin, je veux dire, ça veut dire que il n'était pas une star, quoi. Et genre, il produit ce genre d'effet, il produit ce genre d'assurance, alors que c'est un nobody, quoi. Et ça, ça c'est quand même la marque des grands, je pense.
L'assurance de renifler du tilleul dans un coin d'une scène pourrie, quand même. Hein.
Bah ouais, c'est ça.
Ouais, mais il est là.
En fait, on a des personnages qui sont plantés comme des piquets, avec une mise en scène qui ne sert qu'à les suivre, en fait, quand il daigne bouger. Et là, je trouve que justement, Charouk, contrairement aux autres personnages, lui, quand il bouge dans le cadre, on le sent, on le voit. Enfin, on le sent dans le sens... on peut le sentir, quoi. Il y a un truc qui se passe, quoi. Voilà. Et notamment cette fameuse scène qui a l'air d'un ridicule fini quand on en parle, mais qui, en fait, elle marche quand même. C'est ça qui est dingue, quoi. Je trouve que quand il se meut dans le cadre, ça marche vachement bien, quoi. Alors que, ouais, les autres, bon, j'imagine que le prince Miskin, c'est volontaire. Hein, c'est un peu une sorte de fantôme qui se balade. Mais tous les autres, là, ils bougent pas.
C'est quoi votre excuse?
Juste la tête.
Pour être chiant.
Mais l'autre là qui dit pendant 2 épisodes « je vais me suicider, je vais me suicider », bah suicide-toi, putain, tu fais chier, laisse-nous tranquille. Enfin, tu vois, et t'as que des mecs comme ça, ou des mecs qui viennent se pointer chez lui, qui disent « je peux te tirer de la thune ?»« Ouais, pas de problème, ok, salut, merci. » Et puis voilà, enfin, tu vois, je sais pas, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et après, t'as Charouk qui apparaît dans les seules scènes, une sorte de bouffée d'air, quoi. Une vraie respiration.
Ouais, Charouk est le seul à jouer cinéma, là où les autres, ils sont statufiés dans un truc, ils sont à la galerie, enfin, ils sont au musée Grévin, et c'est peut-être le seul qui bouge un peu les nerfs de son visage aussi, quoi, tu vois.
En tout cas, il est là, en tout cas, il est beau. Il commence au cinéma dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, on fera ses 3 premiers films, celui qui l'a révélé au public, au monde, d'Ivana. On parlera aussi de Shamadkar et de Raju Bangaya Gentleman. Voilà pour le programme. Merci à vous et on se retrouve bientôt.
Merci. Salut. Merci.
You know we came time on the front line till it's over. Deep in the trenches, boy, yeah.